Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant dans la Grande Table. Retour à la liberté d'expression après avoir ouvert la discussion il y a quelques semaines avec l'avocat Emmanuel Pirat. On poursuit avec le point de vue d'un politiste, Denis Ramon, qui se montre exaspéré par l'allure des débats sur cette question des querelles de récréation. Professeur à l'université d'Angers, il publie aujourd'hui La Bave du Crapaud, petit traité de liberté d'expression aux éditions de l'Observatoire. Reste à savoir si et quand elle atteint ou n'atteint pas la blanche colombe. Bonjour à vous, Denis Ramon.
Bonjour.
La liberté, merci à vous d'être avec nous. La liberté d'expression, la tolérance dans l'histoire des idées, c'est une réflexion de longue date pour vous. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce livre? Quelles controverses récentes ou accumulations de petites polémiques vous ont donné le sentiment que quelque chose dysfonctionnait dans notre manière d'aborder cette question?
C'est vrai qu'au début, enfin, au point de départ de ce livre, il y a une sorte de diagnostic qui m'obsède depuis un certain temps sur la... le statut qui est fait à la liberté d'expression dans les débats publics. Il me semble que à chaque fois qu'on entend parler de liberté d'expression ces dernières années, en France et aussi dans d'autres sociétés européennes et aux États-Unis, c'est à l'occasion de dénonciations du politiquement correct. On va parler de la liberté d'expression en tant que menacée. Menacée par quoi? Par des mouvements minoritaires, par le politiquement correct, par le féminisme, par divers mouvements. Et en fait, s'impose l'idée selon laquelle la liberté d'expression serait une sorte de forteresse assiégée, une sorte de symbole de l'Occident aussi, forteresse assiégée par... toutes sortes de mouvements, et ces mouvements sont en général qualifiés effectivement de politiquement corrects. Plus généralement, je pense que cette situation et ces querelles sur le politiquement correct révèlent un glissement qui est à l'œuvre depuis plus de temps, hein, depuis plusieurs décennies, sur la signification politique de la liberté d'expression. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que jusque aux années 60-70, la liberté d'expression a été majoritairement, disons, associée à des causes qui étaient des causes, on pourrait dire, progressiste, avec tous les problèmes que pose ce mot, hein, antimilitariste, parti politique minoritaire, et donc la liberté d'expression était vue comme un outil critique contre la majorité, contre l'État, contre les pouvoirs et contre, de manière générale, l'oppression religieuse. Et ce qui s'est passé, je pense, depuis la fin des années 70, c'est que la liberté d'expression a glissé politiquement dans sa signification pour devenir, pour le dire assez grossièrement en fait, une valeur de droite. Et même aussi d'extrême droite, hein, puisque je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'affaire de la fermeture d'un site, là, démocratieparticipative.biz, là, on en a parlé ces derniers temps dans les médias, un site d'extrême droite, et ce site prétendait être le site le plus en faveur de la liberté d'expression, hein, c'était sur sa page d'accueil, je suis allé voir, et donc ça c'est symptomatique du fait que la liberté d'expression est devenue effectivement une valeur à laquelle se raccrochent des courants politiques conservateurs et réactionnaires pour revendiquer le droit de dire tout le mal qu'ils pensent de certains mouvements minoritaires. Donc aux États-Unis, ça va être les homosexuels ou les noirs. En France, ça va être les musulmans ou les mouvements féministes. Et tout ça, donc, en fait, s'inscrit dans une situation où il y a eu, je dirais, une captation identitaire de la liberté d'expression. En fait, comme beaucoup de concepts centraux de la vie politique, depuis quelques années, la liberté d'expression a glissé pour devenir une valeur identitaire. Ça a été le cas avec la notion de république, hein, qui est aujourd'hui captée, c'est-à-dire la république contre les autres. La laïcité, hein, la laïcité qui a aussi un usage identitaire, hein, la laïcité contre les autres. Et la liberté d'expression, d'une certaine manière, a suivi ce courant-là. Aujourd'hui, être pour la liberté d'expression, en sous-texte, c'est être contre tous ces mouvements minoritaires-là, et donc voir tous les débats qui peuvent avoir lieu actuellement sur la condition des femmes ou sur la condition des minorités comme autant de censure. Et donc voilà, c'est là-dessus que j'ai voulu réagir, c'est sur ce glissement conservateur et réactionnaire de la liberté d'expression, et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'on pouvait être pour la liberté d'expression sans appartenir nécessairement à ce courant politique, ou à cette tendance politique.
C'est aussi, vous dites, c'est aussi sur ce glissement sémantique que vous avez travaillé, parce que vous revenez beaucoup au pouvoir des mots dans cet essai. Arme de progrès et d'émancipation, la liberté d'expression a fait l'objet d'une appropriation réactionnaire, écrivez-vous, conçue contre les institutions, les forts, les puissants, c'est-à-dire l'Église, le roi, l'État. Elle s'exerce aujourd'hui avec, avant tout, contre les plus faibles. C'est ce renversement qui s'est opéré que vous étudiez, c'est la thèse centrale, effectivement, de votre essai, et on va tenter de comprendre comment ce basculement s'est réalisé au fil des années. Pour comprendre, vous pensez qu'aujourd'hui, on peut traiter de cette question avec modération, ou est-ce qu'on est forcément un peu excessif quand on traite ou qu'on parle de la liberté d'expression ?
À partir du moment où la liberté d'expression est une question identitaire, c'est forcément excessif.
C'est-à-dire, c'en est une ou pas ?
Alors, j'aimerais que ce ne le soit pas, justement. C'est-à-dire que la manière dont la liberté d'expression est posée dans les débats publics fait que, immédiatement, ça devient un enjeu qui est presque un enjeu de sensibilité et très épidermique. D'ailleurs, il suffit de voir, en fait, dès que des personnes s'estiment censurées, ils ont des réactions physiques extrêmement notables. Ils se mettent à crier, à dire « non, mais c'est pas possible, on peut plus dire ça ». Enfin, il y a une sorte de réaction épidermique. Et qui signale quoi, en fait ? Qui signale le fait que, à mon avis, tant que la liberté d'expression est une question identitaire, toute personne qui vous répond qui n'est pas d'accord avec vous est fatalement perçue comme une forme de censure. L'autre est par définition une censure. Donc, les blancs vont s'estimer censurés par les noirs, les hommes par les femmes, les musulmans par les juifs et réciproquement, dont tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, l'altérité va immédiatement être vue comme un objet un obstacle, et cet obstacle suscite évidemment une grande réaction et une grande violence, en fait. C'est-à-dire que si la personne m'empêche d'affirmer mon identité, je vais fatalement vouloir le soumettre, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Et aujourd'hui, par exemple, Trump a fait beaucoup plus usage de la liberté d'expression. Après, évidemment, je pense que c'est pas une fatalité. Ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, évidemment, c'est essayer de prendre un petit peu de recul historiquement sur cette question. Bien entendu, l'idée du livre part d'un constat sur le débat public. Mais je pense qu'en fait, il est possible d'aller un petit peu plus loin, et ça, c'est une voie qui est très peu explorée en France, qui est en fait la question suivante. Beaucoup de gens, en fait, considèrent que la liberté d'expression aujourd'hui est en péril. Et j'ai envie de dire, effectivement, mais la liberté d'expression est structurellement en péril. À partir du moment où vous faites usage de votre liberté d'expression, vous choquez, vous déplaisez, et donc vous risquez de susciter des réactions. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est pas me contenter de dire qu'aujourd'hui, c'est absolument terrible, il y a toutes sortes de censures qui empêchent de parler. C'est d'essayer de dire, bon, très bien, on est pour la liberté d'expression, mais alors où est-ce qu'on en pose les limites ? C'est-à-dire faire cet effort, en fait, que font assez peu les gens qui disent être en faveur de la liberté d'expression, qui est de définir des critères permettant de dire, voilà, ce qui pourrait être dit acceptable ou pas. Est-ce que, par exemple, ceux qui sont si favorables à la liberté d'expression ne sont pas favorables aux injures ad hominem ? Ils sont pas favorables à la diffamation ? Ils sont pas favorables aux menaces de mort ? Bon, alors comment on définit une injure ? Comment on définit une diffamation ? Est-ce qu'on reconnaît les injures collectives ? Toutes ces questions, en fait, qui sont toujours au cœur des débats et qu'on n'arrive pas à résoudre, parce qu'en fait, en France, ces questions ont été, je pense, jusqu'à présent, assez minorées.
Vous dites que c'est pas une forteresse assiégée. Mmh. Est-ce que vous diriez pour autant qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée, la liberté d'expression ?
Certainement pas. Certainement pas. Que la liberté d'expression, évidemment, a subi des attaques. Enfin, il va de soi que les attentats contre Charlie Hebdo, et puis aussi des meurtres, par exemple, de cinéastes comme Théo Van Gogh, donnent à juste titre l'impression qu'on peut à nouveau mourir pour des idées en Occident. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est extrêmement choquant, parce que qu'on puisse mourir pour des idées dans l'histoire, on en a de mains exemples, évidemment, très nombreux, mais qu'on puisse aujourd'hui mourir pour des idées, c'est extrêmement choquant.
Vous êtes docteur et prof, pardon, en sciences politiques. Aujourd'hui, pour répondre à toutes ces questions, vous êtes allé vous mettre à la croisée des sciences politiques, de la science politique, du droit, mais aussi de la philosophie. Oui. Sur cette question du droit, c'est intéressant, vous écrivez qu'aujourd'hui, la liberté d'expression occupe la place de ce qui, de l'intérieur même du droit, a pour fonction de remettre en cause.
Oui.
C'est une sorte de dilemme intrinsèque qu'elle doit supporter.
Oui, ben, effectivement ce que j'essayais de montrer. C'est évidemment la liberté d'expression un rapport assez complexe avec le droit, au sens où c'est, je crois, la seule liberté à laquelle on demande d'être excessive. On va pas demander à la liberté, par exemple, d'aller et venir, d'être excessive, ni à la liberté de culte d'être excessive. Mais par contre, il va de soi que la liberté d'expression vise et touche des énoncés qui peuvent choquer. La conversation quotidienne et anodine n'appartient pas à la liberté d'expression. Quand je suis à table et que je dis « passe-moi le sel », c'est pas la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression consiste à se mettre, en fait, dans une sorte d'abus constitutif. Et en fait, toute la question, et pourquoi j'ai voulu recourir à la philosophie ? Parce que la philosophie peut nous aider, je crois, à réfléchir à la question de l'excès, de l'abus, et de à partir de quand on peut aller trop loin. Pourquoi ? On voit bien que quand on parle de liberté d'expression, on peut pas s'en tenir au droit. On va pas dire ah bah ça c'est interdit, donc c'est interdit, ça c'est autorisé, c'est autorisé. Ça ne peut pas être suffisant. Le droit sur la liberté d'expression est extrêmement évolutif, il ne cesse d'évoluer au gré des controverses, au gré des changements de société. Et en revanche, je pense que la réflexion philosophique, notamment en philosophie politique et en philosophie morale, peut nous aider à réfléchir à des critères de partage entre l'abus qui va et l'abus qui ne va pas.
Mmh. Voilà. Donc il faut en définir les contours, donc il faut aussi réfléchir à ses limites et se demander qui est aujourd'hui le garant de la liberté d'expression. A été adoptée la semaine dernière la loi Fake News qui ouvre la voie à un recours désormais de 140 sénateurs, les républicains et centristes devant le Conseil constitutionnel. Ils l'estiment dangereuse, selon eux, dangereuse pour la liberté d'expression. Voilà comment cette loi était défendue en mai dernier par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen.
Mesdames et messieurs les députés, nous n'avons pas le droit d'attendre. Nous ne pouvons pas prendre le risque de nous habituer, de laisser les fissures se creuser, ne pas céder à la passivité, ne pas céder à la naïveté, en comptant sur l'autorégulation des acteurs numériques, ne pas céder à la démagogie, en renvoyant à la seule capacité de discernement des citoyens. Il y a une ligne de crête entre la protection intransigeante des libertés publiques et la condamnation des acteurs qui les retourne contre la démocratie elle-même. C'est au Parlement seul, et lui seul, qu'il appartient de définir cette ligne de crête.
Donc c'est au Parlement seul de définir la ligne de crête. Françoise Nyssen qui disait ne pas vouloir céder à la démagogie en renvoyant à la seule capacité de discernement des citoyens. La seule capacité de discernement des citoyens ne suffit-elle pas vraiment pour vous, Denis Ramon ?
Non, mais je dirais que non, le simple discernement des citoyens ne suffit sans doute pas, mais je dirais que l'État non plus ne suffit pas. Et c'est ça la grande difficulté sur la liberté d'expression. Il serait tout à fait naïf de penser que, par nature, les citoyens seraient intrinsèquement capables de faire la séparation entre une vraie information et une fausse information. Donc en fait, avec cette affaire de fake news, on retrouve des affaires qui sont en fait très classiques en philosophie politique et même dans l'histoire, que sont la propagande, la diffusion de fausses informations par des institutions qui ont du pouvoir, qui ont de l'autorité, qui sont pas seulement des associations, mais qui ont véritablement une capacité à se faire entendre et des relais médiatiques. Donc évidemment, on peut pas faire totalement cette confiance aux individus de s'en séparer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et en France notamment, contrairement aux États-Unis, l'État se fait le protecteur des individus face aux excès de la liberté d'expression. Hein, en France, dans la Déclaration des droits de l'homme, vous avez article 11, vous avez la liberté de communiquer vos pensées et opinions dans les limites fixées par la loi. Et donc, il est tout à fait clair en France que la loi fixe les limites de la liberté d'expression. Mais le problème, c'est qu'en même temps, on ne peut pas faire une confiance aveugle à la loi. On ne peut pas faire une confiance aveugle aux gens qui votent les lois. Ces derniers temps, en France, depuis une trentaine d'années, ont été votées des lois limitant la liberté d'expression qui sont tout à fait problématique au point de vue des principes, au point de vue des conséquences. Je pense évidemment à la loi Guesso, qui a interdit le négationnisme, et à toutes sortes de lois qui les ont suivies, et dont on...
En quoi est-ce problématique ?
C'est problématique parce que, disons que le principe qui guide la limitation de la liberté d'expression, de manière générale, c'est la nuisance faite à autrui. Et je pense que la principale difficulté philosophique, c'est de définir ce qui nuit à autrui. Par conséquent, dans le droit, vous avez toutes sortes de lois qui punissent ce qu'on pourrait appeler de manière générale des nuisances. Vous n'avez pas le droit d'injurier, vous n'avez pas le droit de diffamer, vous n'avez pas le droit d'inciter à la violence, vous n'avez pas non plus le droit d'inciter à la haine, ce qui est d'ailleurs une notion qui pose problème, parce qu'après tout, on a le droit d'haïr, mais bon, on peut très bien voir que la haine peut, par ricochet, nuire à autrui. Donc en fait, vous avez dans le droit français, depuis l'après-guerre en fait, parce que tout cet arsenal juridique dans les sociétés européennes date de l'après-guerre, et notamment du début des années 60, vous avez tout un arsenal juridique qui vise à protéger les individus et l'ordre public. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est lorsque des lois, dont la loi Guesso par exemple est l'exemple, et la loi qui réprime le négationnisme, vous en avez dans d'autres pays européens, vous les avez d'ailleurs dans la quasi-totalité des sociétés européennes, hein, vous n'en avez pas aux États-Unis. Mais le problème de cette loi, c'est qu'elle ne vise pas explicitement une nuisance faite à autrui, mais un contenu, c'est-à-dire une opinion. Et en fait, à partir du moment où on vote ce genre de loi, on commence à entrer dans la zone grise qui sépare la nuisance faite à autrui et ce qu'on appelle de manière générale le délit d'opinion. Alors là, en l'occurrence, c'est pas un délit d'opinion parce que vous avez le droit d'avoir une opinion, mais en tout cas, un délit d'opinion exprimé. Et là, évidemment, on peut craindre, à partir de ce genre de loi, ce qu'on appelle généralement la pente glissante, hein, c'est-à-dire qu'à partir de ce type de loi-là, soient votées d'autres lois qui répriment d'autres paroles. Et cette loi est contestée, et je pense à juste titre, parce qu'elle cible un contenu, c'est-à-dire le contenu négationniste, qui paraît évidemment tout à fait odieux, mais sans que la nocivité du négationnisme ne soit vraiment expliquée dans la loi. Et du coup, en fait, le droit en fait s'expose véritablement à la critique dans ces cas-là. Il ne s'expose pas seulement à l'impuissance, hein, puisqu'on constate hélas que la loi Guesso n'a absolument pas stoppé le négationnisme, on pourrait presque dire bien au contraire, mais que le droit s'expose aussi à la critique, parce qu'on peut au fond demander mais pourquoi le droit va-t-il protéger telle mémoire et pas telle autre ? Et ce sont des questions auxquelles il est très difficile de répondre. Et donc voilà, je pense en fait le type de loi auquel on peut penser lorsqu'on pense éventuellement aux excès légaux vis-à-vis de la liberté d'expression. Et en fait tout ça renvoie à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'en fait on peut très bien défendre la liberté d'expression, et je pense que la loi Guesso par exemple peut être critiquée, sans pour autant considérer que la liberté d'expression est aujourd'hui une forteresse assiégée par toutes sortes de débats. En gros, ce que j'essayais de faire, c'est de séparer les choses, en fait. Là où les choses ne sont pas séparées dans les débats publics.
Alors, je vous amène sur un autre terrain, si vous voulez bien, Denis Ramon.
Avec plaisir.
Toujours pour tenter de comprendre quelle est la place, le rôle de l'État, à la fois dans la légitimation ou le reflux de certaines opinions. Ce rôle à la fois de protecteur, de garant, d'arbitre aussi, qui peut, selon certains, se transformer en un rôle de censeur. Je vous amène sur un autre terrain, avec les mots de Manuel Valls. C'était dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, autour de l'interdiction du spectacle de Dieudonné en 2015.
Quand on s'attaque aux Juifs de France, on s'attaque à la France et on s'attaque à la conscience universelle. Ne l'oublions jamais. Et quelle terrible coïncidence, quel affront que de voir un récidiviste de la haine tenir son spectacle dans des salles bondées au moment même où samedi soir, la nation, porte de Vincennes, se recueillait. Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Je le dis avec force, ici, à la tribune de l'Assemblée nationale. Il y a une différence fondamentale entre la liberté d'impertinence. Le blasphème n'est pas dans notre droit, il ne le sera jamais. Il y a une différence fondamentale entre cette liberté et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, qui sont des délits, qui sont des crimes, et que la justice doit sans doute punir avec encore plus de sévérité.
Voilà, il est assez convaincant, le Premier ministre, dans l'hémicycle. Fallait-il interdire ce spectacle, à vos yeux, Denis Ramon ?
C'est une question... C'est la question à 100 000 euros, ça. Mais
il n'y a rien à gagner.
Oui, mais du coup, il y a peut-être rien à perdre. Enfin, il y a peut-être
allez-y,
que à perdre.
Vous, alors.
Mais en tout cas, non. Quand j'entends ce discours de Manuel Valls, évidemment, ça provoque des choses très contradictoires, parce que d'un autre côté, on sent bien le climat d'émotion qui submerge le pays à ce moment-là, et effectivement, le partage que fait Manuel Valls entre, d'un côté, la liberté d'impertinence et de blasphème, et ce qu'il appelle l'incitation à la haine et au crime, semble assez convaincante intuitivement. Mais avec le recul, on peut aussi être pris d'une certaine gêne lorsqu'on réécoute ces paroles, à l'idée qu'au moment même où on célèbre la liberté d'expression vraiment nationalement, on désigne comme ennemi principal de la liberté d'expression quelqu'un qui prétend en faire usage. Comme si finalement, dans cette affaire-là, c'était la mauvaise liberté d'expression, c'est-à-dire négationnisme, incitation à la haine, qui avait eu raison de la bonne. Et là, il y a quelque chose qui me semble assez gênant dans cette manière, dans ce moment de communion nationale assez intense et assez émouvant.
Donc on était le 13 janvier 2015.
Était le 13 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et Hyper Cacher. On était dans un moment où effectivement, il fallait souder la communauté nationale et on soude la communauté nationale, puisque à ce moment, je me souviens, j'ai vu la vidéo, à ce moment-là, l'Assemblée nationale se lève. Et donc, la communauté nationale se lève à l'évocation donc du spectacle de Dieudonné que Manuel Valls ne nomme pas, mais évidemment vise. Et là, il y a effectivement quelque chose d'un petit peu gênant, parce que on se rend compte que finalement, Dieudonné, bon, quoi qu'on pense effectivement du personnage et de ses spectacles, a en quelque sorte permis à ce moment-là, d'une part, de ressouder la communauté nationale contre sa personne, et ensuite de séparer en quelque sorte le bon grain de l'ivraie. Et je pense que le problème, c'est que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça. Est-ce qu'il faut interdire les spectacles de Dieudonné? C'est une question à laquelle il est très très difficile de répondre, parce que je pense que la question qui se pose, c'est aussi qu'est-ce qui s'est passé aussi dans cette affaire-là. Il y a eu entre Dieudonné et Manuel Valls une sorte de conflit presque personnel, de rivalité mimétique qui est très visible quand on regarde à la fois les discours de Manuel Valls et les spectacles de Dieudonné. Et en quelque sorte, Dieudonné, force le trait en réaction également aux contraintes juridiques qui lui sont posées. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que dans toute cette affaire-là, Dieudonné a en quelque sorte joué un rôle, consciemment ou inconsciemment, de bouc émissaire, et qu'il s'est en quelque sorte voluptueusement installé dans le rôle du méchant qu'on lui a fait jouer assez complaisamment. L'antisémitisme qui hante effectivement les spectacles de Dieudonné est arrivé progressivement, hein, on le voit au fil des années 2000, hein, c'est déjà et notamment à partir d'un sketch qu'il avait fait, un sketch bien connu, assez mauvais d'ailleurs, mais bon, peu importe, sur le plateau de Fogiel, chacun s'en souvient. Et il avait dit, je crois, Israël. C'était en gros, il comparait un colon israélien à un nazi, ce qui est évidemment, bon, tout à fait choquant, on peut le comprendre. On peut penser, enfin moi je pense, que c'est à partir des réactions qui ont suivi ce sketch qu'il s'est en quelque sorte, pour prendre un mot à la mode, radicalisé. Et à partir de ce moment-là, incarner la part complètement obscure de la liberté d'expression. Et d'une certaine manière, critiquer Dieudonné à ce moment-là, et à l'Assemblée nationale, était une manière de se donner nationalement bonne conscience. Et je suis en fait assez gêné par le traitement médiatique et juridique et politique qui a été fait de Dieudonné. Ces spectacles ont été interdits avec une rapidité extrêmement frappante par le Conseil d'État à la suite de l'intervention de Manuel Valls en 2014. Et le problème qui se pose au-delà de la seule question de Dieudonné, c'est qu'à partir du moment où il semble qu'il y ait un déni de justice ou une justice qui s'acharne contre quelqu'un. Et on peut dire que la justice est acharnée contre Dieudonné, je veux dire, à l'occasion de ses spectacles. À partir de ce moment-là, ça devient très difficile de défendre la liberté d'expression dans sa version égalitaire et universaliste. C'est-à-dire que si on est pour la liberté d'expression, on
doit... Vous dites que d'une certaine manière, la censure est toujours vaine, ou en tout cas qu'elle peut se retourner assez facilement alors, contre ceux qui la défendent.
Il n'y a pas, en fait, si vous voulez, c'est une question dans laquelle il n'y a pas de bonne solution, évidemment, puisque de toute façon, dans ces affaires-là, dans les affaires de liberté d'expression, il n'y a pas de bonne solution. Soit vous laissez la personne parler et ses idées se diffusent, soit vous l'empêchez de parler et ses idées se diffusent. Bon, voilà. Et ça, l'idée selon laquelle quand vous censurez, ça ne fait qu'attiser les choses, c'est ce qu'avait déjà vu Spinoza au XVIIe siècle, hein, dans le traité théologico-politique. Vous faites un martyr, il gagnera. Vous le laissez parler, il gagnera aussi. En fait, je dirais que ces excès de parole sont peut-être aussi le symptôme du fait qu'il y a peut-être un pluralisme d'idées insuffisants dans les grands médias français. Si bien que ce qui ne peut pas se dire à heure de grande écoute dans les grands médias va se dire peut-être d'autant plus violemment dans ce qui serait des soupapes de sécurité. C'est-à-dire, en gros, on ouvre la soupape sur des sites internet, dans des spectacles, et ce qu'on ne peut pas dire formellement ou ailleurs de grande écoute, on va le lâcher face à un public et une audience conquise. Et je dis pas qu'il n'y a pas de bonne solution face à ça, mais je pense que par contre, interdire comme ça autoritairement des spectacles rend très très difficile la pédagogie autour de la liberté d'expression.
Mimésis ou catharsis, c'est d'ailleurs une question que vous posez autour de ces dilemmes de la liberté d'expression entre la théorie de la soupape et l'idée que les mots et les images disposeraient en eux-mêmes d'un pouvoir de nuire. D'ailleurs, je l'ai évoqué, vous faites toute une réflexion autour du langage, du pouvoir des mots, et vous ne le minimisez disait pas, loin de là, les mots ne servent pas seulement à décrire la réalité, mais également à la construire. Ils portent une vision du monde, ils désignent des ennemis. Le langage a une vision performative. Invité de cette grande table des idées, Denis Ramon, à l'occasion de la parution de son essai « La bave du crapaud, petit traité de liberté d'expression » aux éditions de l'Observatoire.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Vous ne plaidez pas pour une liberté d'expression totale, sans limite, dans cet ouvrage « La bave du crapaud » Denis Ramon, mais au nom de quoi la défendre? Comment la défendre sans se faire l'avocat de tous ces discours racistes, xénophobes, négationnistes, pornographiques que vous évoquez et que vous déclinez? 2016-2017, la droite enfourche ce cheval de bataille, celui de la liberté d'expression, celui du politiquement correct. Écoutez coup sur coup les mots de Laurent Wauquiez, de Jean-François Copé, puis de Nicolas Sarkozy.
Nous sommes les seuls à pouvoir porter une vraie alternance face à la domination du politiquement correct et de la bien-pensance. Et il faut que la France puisse compter sur une droite qui soit vraiment de droite.
La droite que j'aime enfin, c'est une droite totalement libérée du politiquement correct, de cet ordre établi, imposé par la gauche bien-pensante pour faire taire la réalité du terrain.
Eh bien, le politiquement correct, c'est la tyrannie des minorités. Le politiquement correct, c'est par exemple de dire « Il n'y a aucun problème d'immigration ». Et si vous pensez qu'il y a un problème d'immigration, c'est d'ajouter « Vous êtes xénophobe ».
En s'en prenant au politiquement correct, à qui s'attaquent les défenseurs de la liberté d'expression pour vous, Denis Ramon?
Oh bah la dénonciation du politiquement correct, c'est toujours un grand succès dans le stand-up politique. Oh bah on s'en prend en fait, c'est de manière sous-jacente aux bonnes âmes, progressistes, hein, égalitaires. On s'en prend aux minorités de manière générale et à la chape de plomb qu'elle ferait peser sur la liberté d'expression. Donc il y a là en fait une manière de plaider pour une sorte de libération de la parole, qui serait le droit de tenir des propos lourds, tout ça, c'est-à-dire de pouvoir enfin dire ce qu'on a sur le cœur. Mais on sent que c'est encore un petit peu, timoré. On dénonce le politiquement correct, mais ça reste de l'implicite. Hein. On va pas encore véritablement dire ce qu'on a sur le cœur. Ça viendra peut-être avec le temps, mais.
Au nom de la transgression. Mais vous dites, c'est intéressant, Denis Ramon, que droite, gauche, conservateur, progressiste, la liberté d'expression est presque plus un curseur aujourd'hui.
Dans cette version-là, elle est presque, hélas, devenue un repère identitaire de la droite. Dans ce sens, effectivement, transgressif. À partir du moment où on érige le politiquement correct et la bien-pensance, comme disent ces hommes politiques, en pensée dominante, on se met évidemment dans une position transgressive en défendant la liberté d'expression contre le politiquement correct. En fait, je pense que là, ces personnes, donc Wauquiez ou Sarkozy ou Copé, mime l'attitude qui a toujours été celle de la liberté d'expression. C'est le petit face au puissant. C'est Galilée face à l'Église catholique. C'est Socrate face à son procès. En gros, il faut toujours se mettre dans la position du petit pour être face au grand. Puisque la liberté d'expression, c'est une liberté de s'attaquer aux puissants, eh bien, faisons des associations antiracistes et des associations féministes les puissants. Et nous, en les dénonçant, nous avons le double bénéfice à la fois d'être en réalité des dominants et de nous mettre dans la position de victime face aux dominants. C'est-à-dire, c'est une sorte, quand des gens comme ça dénoncent le politiquement correct, c'est une sorte de double bénéfice qu'ils s'arrochent puisqu'ils s'en prennent à des plus faibles qu'eux, tout en se mettant dans la position des faibles. Donc la morale est parfaitement préservée. Bon, ce qu'on remarque, c'est que ça ne va pas tellement plus loin. Hein, c'est-à-dire que ce que je disais au début finalement s'applique. On ne sait pas véritablement quels sont leurs critères de partage entre ce qui est bon de dire et ce qui est mauvais de dire. Bon, moi, du coup, ce que j'ai essayé de
vous
faire...
Vous en avez trouvé des critères?
J'ai essayé d'en trouver, puisque effectivement, on peut pas dire qu'ils existent déjà. Et il me semble qu'en fait, il est possible de faire une distinction, en fait, entre le fait d'attaquer ce que j'appelle les préférences des gens et de ne pas attaquer leurs appartenances.
Quelle est la différence?
Disons que, par exemple, quand on parle de préférence, ce que j'appelle préférence, ça va être les convictions politiques, les convictions religieuses, les goûts, la morale. Ce que j'appelle les appartenances, quand on attaque quelqu'un au nom de son appartenance, c'est l'attaquer au nom de son appartenance à une race, ou à une origine, ou, alors une appartenance, encore faut-il vraiment définir, à un genre ou un sexe. En fait, je pense que dans ce partage correspond à une intuition, généralement partagée, selon laquelle il est tout à fait justifié de s'attaquer effectivement aux préférences des gens, mais pas de s'attaquer à leur appartenance. Il me semble que la différence entre les deux, c'est ce que j'appelle la révisabilité. Vous pouvez parfaitement réviser des préférences, vous pouvez parfaitement changer de conviction religieuse, vous pouvez changer de conviction politique, c'est pas facile, hein. C'est souvent douloureux, mais c'est possible. En revanche, vous ne pouvez pas changer facilement d'origine, vous ne pouvez pas changer de race, vous pouvez changer de sexe, mais ça, c'est un processus qui est long et coûteux. Et par conséquent, les préférences sont des choses dont on peut parler, dont on peut débattre. Or, je pense qu'on ne peut pas réellement débattre des appartenances. À partir du moment où vous attaquez des gens à partir de leurs appartenances, vous les réduisez en quelque sorte à une identité non modifiable, et par conséquent, ce sont des choses qui sont inattaquables ou non modifiables par le discours.
D'où, critère sous-jacent, l'importance d'évaluer aussi la réception du message. Vous l'écrivez, les effets de la liberté d'expression s'évaluent toujours sur quelqu'un.
Oui, tout à fait. Et ce quelqu'un, effectivement, c'est ce que j'appelle le spectateur moyen ou le récepteur moyen. Il a des préférences et il a des appartenances. Mmh. Et mon idée, c'est de dire la différence entre les préférences et les appartenances, c'est la condition de possibilité de la liberté d'expression. Dans une société où vous ne pouvez pas faire la différence entre les deux, vous ne pouvez pas avoir de liberté d'expression. Et l'exemple, évidemment, le plus frappant, c'est le cas du blasphème. Les questions religieuses sont évidemment compliquées parce qu'elles se situent justement, dans mon vocabulaire, à l'intersection de l'appartenance et des préférences. Vous appartenez à une communauté de fidèles, mais vous avez des préférences religieuses. Mais à partir du moment où vous considérez que la religion est une appartenance, et donc une appartenance qui englobe la collectivité à laquelle vous devez vous soumettre, vous ne pouvez pas accepter le blasphème. Et je pense que c'est ce qu'on constate dans l'actualité, c'est-à-dire que quand des gens dénoncent le blasphème, ils considèrent que la religion est une appartenance, quelque chose qui les touche profondément. Et toute la difficulté, je trouve, dans les débats sur la liberté d'expression, c'est d'essayer de faire la différence entre préférence et appartenance, notamment dans les questions religieuses, mais pas seulement, dans les questions politiques, et évidemment, et ça c'est toute une autre question, examiner les rapports entre ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Hein, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une parole est d'autant plus dangereuse ou d'autant plus risquée que celui qui la prononce a davantage d'autorité. Et c'est peut-être ça qu'il faut aussi remettre au centre du débat, c'est de bien voir que les effets de la liberté d'expression ne sont pas les mêmes selon que la personne parle en son nom propre, ou alors qu'elle parle en tant que Premier ministre, en tant que scientifique. Mmh. Et donc, voir que la liberté d'expression, c'est une affaire de rapport et que les effets ne peuvent se voir qu'à partir de rapports, c'est aussi remettre au centre du jeu cette question de la liberté d'expression comme conflit politique permanent.
Et dès lors, quand interdire et quand punir ? C'est pas la même étape.
Oui, tout à fait. Bien, écoutez, ça c'est. Il faudrait évidemment prendre au cas par cas, mais je pense que les questions d'appartenance et de préférence commence à offrir un critère. Et par exemple, pour donner un exemple, je considère qu'il est tout à fait légitime d'interdire l'apologie de la violence contre les personnes, mais je considère illégitime d'interdire le négationnisme. Donc voilà, typiquement le genre de conséquences que peuvent avoir ce genre de critères.
Merci beaucoup pour la clarté de votre propos, Denis Ramon. La bave du crapaud, petit traité de liberté d'expression, c'est-à-dire on n'a pas eu le temps de prendre le temps de parler un peu plus précisément aussi du cas américain que vous développez aujourd'hui. Dans cet essai qui montre aussi bien dans sa comparaison avec la France les différences de traitement qui peuvent être réservées à la liberté d'expression. La bave du crapaud est donc parue aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et à Laura Dutèche-Pérez pour la préparation, programmation de la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Alex Dang. Très bel après-midi à tous sur France Culture.